Somnifère, le podcast.
Somnifère, c'est un podcast en deux parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somniferelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit.
Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer.
Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 10 décembre et c'est une période compliquée pour beaucoup d'entre nous alors que nous ne savons pas si le confinement va être prolongé ou si nous pourrons retrouver nos proches pour les fêtes. La séance de relaxation de ce soir est conçue pour nous permettre de déconnecter de nos soucis et préoccupations dans ce contexte un peu morose. Et juste après cela, un peu de légèreté et un retour en enfance avec L'autre vie, un conte des frères Grimm traduit par Félix Franck. Somnifère est un podcast indépendant soutenu ce mois-ci par lesoreillerspaul.fr, oreiller à mémoire de forme haut de gamme dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous remercie de le soutenir en prenant quelques secondes pour vous y abonner ou le commenter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation.
La séance de relaxation.
On va commencer de manière un peu inhabituelle ce soir. Je vais vous demander de penser à tout ce qui vous tracasse en ce moment. Que ce soit des histoires de conflits, de travail, d'argent, de famille, ou des émotions moins concrètes comme un sentiment d'anxiété, de solitude, le ras-le-bol du confinement, de l'appréhension à l'approche des fêtes, de la colère ou de la tristesse. On a tous des épreuves diverses, des traumas, des problèmes. C'est comme ça que l'existence est faite, mais en ce moment, le contexte peut être lourd et angoissant, et il est d'autant plus important de savoir déconnecter. Pas de refuser la réalité, de nier qu'il y a des choses qui ne vont pas et de faire l'autruche, mais simplement d'éteindre la lumière parfois et de déconnecter complètement. Je vais vous demander maintenant de dessiner un petit sac ou une petite valise dans votre esprit, de visualiser tout ce qui vous gâche la vie en ce moment et d'y placer tout ce à quoi vous pensez, puis refermer le sac ou la valise. Je vous laisse un instant pour le faire. Maintenant, visualisez un grand placard, aménagé avec plusieurs étagères, et placez le sac ou la valisette tout en bas, au-dessous de la dernière étagère, à même le sol. Sur les étagères supérieures se trouve ce qui vous rend heureuse, peut-être vos enfants, vos amis, les souvenirs de votre mariage, vos rêves, vos espoirs, vos ambitions, ce qui vous fait rire, le poids des gens que vous aimez, vos souvenirs d'enfance, etc. Et au-dessous de tout ça, au-dessous de la dernière étagère, vos problèmes actuels. Je vous laisse un moment pour observer votre placard. Vous avez peut-être intuitivement placé les événements et émotions positives à même les étagères, tandis que nous avons placé ensemble les tracas et les problèmes dans un sac ou dans une valise. Parce qu'ils ne sont pas faits pour rester, on les regroupe dans un sac, dans un souci pratique. C'est comme du linge sale qu'on va bientôt mettre en machine, ou des objets et vieux bibelots qu'on va mettre à la poubelle, ou quelque chose que l'on va déplacer. Certains sont là pour rester plus longtemps, bien sûr, et ce, chez chacun de nous. Les traumatismes que l'on guérit au fil de notre vie, la maladie et le deuil également, qui sont des épreuves que nous vivrons tous, mais qui également se transforment et finissent par un processus d'acceptation. Mais vous remarquerez aussi que la plupart des problèmes et émotions que vous avez placés dans ce sac sont temporaires, tandis que l'armoire est remplie d'événements, de personnes, de souvenirs et d'émotions plus durables. En réalité, à l'échelle de notre vie, votre sac prend moins de place que le reste. Et pourtant, dans notre esprit, il semble parfois accaparer tout l'espace. C'est parce que beaucoup d'entre nous avons la fâcheuse tendance de trimballer ces sacs partout, de les porter sur notre dos, comme si nous pouvions en avoir besoin à chaque instant, alors que c'est parfaitement inutile. Il ne faut pas les enfermer et les laisser à jamais, mais il est tout aussi inutile de transporter chaque jour partout nos sacs. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche, à votre rythme. Il est toujours important de prendre de la hauteur, de se rappeler, car au final on le sait déjà, que le temps a son effet sur les choses et que ce que nous ressentons maintenant sera différent de ce que nous ressentirons dans quelques heures, dans une semaine, dans 2 mois, dans 3 ans, etc. Il faut apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est accepter les événements, bons ou mauvais, sans tenter de les influencer de quelque manière que ce soit. C'est parfois prendre conscience qu'on ne peut pas tout contrôler ou que ce n'est pas le moment. C'est s'autoriser à déconnecter de tout le reste pour se retrouver seul avec soi-même. Maintenant, fermez cette armoire à clé, puisque de toute façon, maintenant, tout ça n'a aucune sorte d'importance. Votre journée est terminée. Vous ne pouvez rien y faire, et personne ne dort avec toutes ces armoires et placards ouverts. C'est la même chose dans votre tête. Fermez les yeux, installez-vous confortablement, fermez le livre de cette journée, laissez votre corps se détendre, vous pouvez rouvrir ce placard demain si vous le souhaitez. Et quand vous êtes prêt à nouveau, prenez une grande inspiration par le nez et expirez tout le stress, toutes les tensions. Sentez votre respiration soulever votre poitrine en douceur. Sentez votre ventre se relâcher et votre corps s'alourdir sur le matelas. Sentez l'air remplir vos poumons. Et votre ventre. Inspirez et expirez doucement à votre rythme en prenant votre temps. Concentrez votre attention pendant quelques instants sur les appuis de votre corps avec le matelas et sentez comme votre corps semble s'alourdir un peu plus à chaque expire. Concentrez votre attention sur vos paupières, relâchez-les et observez comme votre front se détend également, ainsi que votre mâchoire, le point entre vos deux sourcils et les autres petits muscles de votre visage. Vous êtes détendu et à présent, vous allez relâcher chaque partie de votre corps que je vais citer, qui va automatiquement se détendre et s'enrober d'une douce chaleur réconfortante. Vos orteils se relâchent et se détendent. La plante de vos pieds. Vos chevilles. Vos mollets, vos genoux, vos cuisses, l'ensemble de vos jambes, vos hanches, vos fesses. Votre zone pelvienne, votre bas-ventre, le bas de votre dos, votre poitrine, l'ensemble de votre dos. Vos épaules, votre nuque, vos bras, vos mains et les doigts de vos mains. Votre corps est désormais parfaitement relâché, détendu, et c'est le moment idéal pour mettre en place une mini séance de méditation, c'est-à-dire ne rien faire d'autre que de vous concentrer sur votre respiration, sur l'air qui entre et sort de vos narines, et de faire le vide, en laissant les pensées parasites aller et venir sans les juger, en les observant simplement passer, puis disparaître, à mesure que vous recentrez votre attention sur l'air que vous inspirez, que vous expirez. Pendant quelques instants, concentrez simplement votre attention sur votre souffle. Vous êtes calme et détendu.
L'histoire du soir.
Il était une fois un roi qui tomba malade et personne ne croyait qu'il pût conserver la vie. Ce roi avait trois fils qui en ressentirent un vif chagrin. Et comme s'ils allaient dans le parc du château pour pleurer, ils y rencontrèrent un vieillard qui leur demanda la cause d'une pareille tristesse. Ils lui racontèrent que leur père était fort malade et qu'il allait à coup sûr mourir, car il n'y avait plus de remède. Mais le vieillard leur dit « J'en connais encore un, c'est l'eau de la vie. Celui qui en boit recouvre tout de suite la santé, mais elle est difficile à trouver. »«
Je la trouverai bien, » répondit l'aîné,
et il courut prier le roi de lui permettre de partir à la recherche de l'eau de la vie, qui seule pouvait le sauver.
« Non, » dit le roi. « Le danger est trop grand, je préfère mourir. » Mais le prince le pria si longtemps que le roi consentit au voyage. Et le prince se disait en lui-même,
« Si je vais chercher l'eau de la vie, c'est moi qui serai le plus cher à mon père et qui deviendrai l'unique héritier du trône. » Il se mit donc en route et lorsque son cheval eut marché quelque temps, il vit un nain au bord du chemin qui lui cria « Où allez-vous si vite ?»«
Petit nabo, » répartit fièrement le prince, « tu n'as pas besoin de le savoir. »
Et il continua sa route. Mais le petit homme s'était fâché et avait prononcé un vœu malveillant. Le prince arriva dans un ravin, et plus il allait, plus les montagnes se resserraient. Enfin, la route devint tellement étroite qu'il ne put avancer davantage avec son cheval et qu'il ne put en descendre non plus, si bien qu'il demeura ainsi emprisonné. Le roi malade l'attendait toujours, mais il ne reparaissait pas. Alors le second fils dit
« Je m'en vais aller à la recherche de cette eau. »
Et il pensait « Cela m'irait fort que mon frère fût mort, car j'hériterai du royaume. » D'abord, le roi ne voulut point le laisser partir, puis il céda de nouveau. Le prince prit le même chemin que son frère et rencontra aussi le nain qui l'arrêta en lui disant
« Où allez-vous si vite ?»«
Petit bonhomme, » répondit le prince, « tu n'as nul besoin de le savoir. » Mais le nain lui jeta un charme et lui aussi, il entra dans une ravine où il ne pouvait ni avancer ni reculer. Tel était le sort des arrogants. Comme le second fils ne revenait pas non plus, le plus jeune des trois frères se décida à s'en aller chercher l'eau merveilleuse, et le roi fut forcé de le laisser partir. Lorsque le jeune prince rencontra le nain sur son chemin et que celui-ci lui fit sa question accoutumée, « Où allez-vous si vite ?», il répondit, « Je vais chercher l'eau de la vie, car mon père est mortellement malade. »
« Savez-vous où la trouver ? » Non, dit le prince. Eh bien, puisque vous avez répondu convenablement, je veux vous le dire. L'eau sort d'un puits dans la cour d'un palais enchanté, et pour que vous puissiez y entrer, je vous donne une verge de fer et deux morceaux de pain. Avec la verge, vous frapperez trois fois à la porte des reins du château, et elle s'ouvrira. En dedans, il y aura deux lions qui accourront, la gueule béante. Jetez-leur le pain, et ils s'apaiseront. Puis, hâtez-vous de chercher l'eau de la vie avant que midi sonne, car alors, la porte se refermera, et vous resterez emprisonné. Le prince remercia poliment le petit homme, prit la verge et le pain, et s'en alla, et tout se trouva tel que le nain le lui avait annoncé. Au troisième coup de verge, la porte s'ouvrit, et lorsque le prince eut apaisé les lions, il entra dans le château et pénétra dans une grande et superbe salle pleine de princes enchantés, à qui il enleva leurs bagues. Il s'empara également d'une épée et d'un pain qu'il y rencontra. Puis il passa dans une autre chambre, où il aperçut une jeune fille belle à ravir, qui se montra toute joyeuse à sa vue, et l'embrassa. Elle lui dit qu'il l'avait délivrée, qu'il aurait l'entière possession de son royaume, et qu'il devait revenir dans un an pour célébrer leur mariage. Elle lui indiqua aussi où était le puits, en lui recommandant de se hâter pour prendre l'eau avant midi. Il allait toujours, et arriva enfin dans une chambre où il y avait un beau lit fraîchement arrangé, et comme il était fatigué, il voulut s'y reposer un peu. Il s'étendit et s'endormit, et lorsqu'il se réveilla, il entendit sonner 11h15. Saisi d'angoisse, il sauta à bas du lit, courut au puits, y puisa de l'eau avec le gobelet qui se trouvait à côté, et s'éloigna à toutes jambes. Comme il sortait par la porte des reins, midi sonna et la porte se referma avec une telle violence qu'elle lui enleva un morceau du talon. Il se réjouissait d'avoir en sa possession l'eau de la vie. Il s'en retourna donc chez lui et en route il rencontra de nouveau le nain. Dès que celui-ci vit l'épée et le pain, il dit « Tu as gagné là un grand trésor. Avec cette épée, tu peux combattre toute une armée. Quant à ce pain, il ne finit jamais. » Le prince se dit « Je ne veux pas retourner au logis sans mes frères. » Et il dit au nain, « Cher petit ami, ne pourriez-vous pas m'apprendre où sont mes deux frères? Ils sont partis avant moi pour chercher l'eau de la vie, et ils ne sont pas revenus. Ils sont emprisonnés entre deux montagnes, répondit le nain, et je les ai retenus là pour leur arrogance. » Mais le prince le supplia si longtemps que le nain lui accorda leur liberté. Toutefois, il le prévint et dit « Prends garde à tes frères, ils ont un méchant cœur. » Lorsqu'ils arrivèrent, ils étaient ravis de se voir libres, et le jeune prince leur raconta ce qui s'était passé. Comment il avait trouvé l'eau de vie et en avait pris un plein gobelet, comment il avait délivré une belle princesse qui allait l'attendre un an après, et serait mis en possession du royaume. Puis ils s'en furent tous trois ensemble et parvinrent dans un royaume en proie à la famine et à la guerre et dont le roi se croyait déjà prêt de succomber dans ce péril. Le prince alla chez lui aussitôt et lui donna le pain avec lequel fut apaisée la faim de tout le royaume. Ensuite, il lui donna son épée et le roi ayant battu l'armée de ses ennemis put vivre désormais en liberté et en paix. Alors, le prince reprit son épée et son pain et les trois frères continuèrent leur route. Ils passèrent encore par deux pays où régnaient la disette et la guerre, et le prince prêta à chaque roi son pain et son épée, et de la sorte, il sauva trois pays. Après ces aventures, les voyageurs se mirent dans un vaisseau pour traverser la mer. Pendant le trajet, les deux aînés se dirent entre eux « C'est notre jeune frère qui a trouvé l'eau de la vie » et non pas nous. Et pour cela, notre père va lui donner le royaume qui nous appartient, et il nous prendra notre bonheur. » Ils l'enviaient et songeaient aux moyens de le perdre. Ils attendirent qu'il fût bien endormi, ôtèrent l'eau de la vie du gobelet pour se l'approprier, et y remirent de l'eau de mer salée et âcre.
Lorsqu'ils furent de retour chez eux, le jeune fils du roi rapporta son gobelet au prince malade pour qu'il y bût et recouvrât la santé. Mais à peine le roi eut-il pris une gorgée de cette eau de mer qu'il devint encore plus malade qu'auparavant. Et comme s'il s'en désespérait, les fils aînés allèrent le trouver et accusèrent leur frère d'avoir voulu l'empoisonner. Ils ajoutèrent qu'ils avaient rapporté la véritable eau de la vie et ils la donnèrent au roi. À peine celui-ci en eut-il bu, qu'il sentit se dissiper son mal et redevint sain et fort comme dans sa jeunesse. Alors, les deux fils aînés se rendirent près de leur frère et lui dirent en se moquant de lui « Tu as découvert l'eau de la vie, mais tu n'as eu pour toi que la peine et nous aurons la récompense. Tu aurais dû être plus sage et ne pas fermer l'œil. Nous t'avons pris l'eau de ton gobelet pendant le trajet sur mer que nous avons fait et où tu t'es endormi. Dans un an, l'un de nous deux ira chercher la belle princesse, mais garde-toi bien de nous trahir. Le roi ne croirait pas un mot de tes discours, et si tu ouvres seulement la bouche, tu perdras la vie. Mais si tu te tais, nous t'en ferons cadeau. » Le vieux roi était en effet très irrité contre son jeune fils, à qui il attribuait la pensée d'avoir voulu le tuer. Il fit assembler toute la cour et rendre un jugement par lequel le pauvre prince était condamné à subir la mort secrètement. Un jour que le prince était à la chasse, sans crainte ni souci d'aucune sorte, en compagnie du chasseur du roi, comme il se trouvait seul dans la forêt et que le chasseur avait l'air triste, le prince lui dit tout surpris. « Mon ami, qu'as-tu donc ?»«
Je ne puis le dire, » répliqua le chasseur, « et pourtant, je le dois. »
« Parle toujours, » reprit le jeune prince, « je te pardonnerai. »«
Hélas, » reprit le chasseur, « il faut que je vous tue, c'est l'ordre express du roi. »
Le jeune homme, saisi d'effroi, s'écria. « Mon bon chasseur, laisse-moi donc la vie, prends, je t'en prie, mon habit royal et donne-moi le tien. »«
Je le veux bien, mon prince, » répondit le chasseur, « car je n'aurais jamais pu tirer sur vous. »
Il prit donc l'habit du prince, et le prince endossa le vêtement du chasseur, puis ce dernier rentra au logis et le fils du roi s'en alla par la forêt. Quelque temps après, on envoya au vieux roi trois voitures chargées de cadeaux en or et en pierreries destinées au plus jeune prince par les trois rois qui avaient battu leurs ennemis avec son épée et nourri leur peuple avec son pain, et qui voulaient se montrer reconnaissants. Ceci alla au cœur du roi, et il pensa qu'il serait possible que son fils cadet fût innocent.
« Que j'ai de remords de l'avoir fait tuer ?» fit le roi.
« Alors, répondit le chasseur, j'ai bien fait de ne l'avoir pas tué. Je n'ai pu me résoudre à exécuter vos ordres. » Et il conta comment tout s'était passé. Le roi à cette nouvelle fut ravi et fit annoncer par tout le royaume que son fils pouvait revenir afin de rentrer dans ses bonnes grâces. Cependant, la princesse ordonna qu'un chemin splendide et tout en or fût disposé devant son palais et que le visiteur qui viendrait à cheval au milieu de la route fût aussitôt introduit, car celui-là serait le vrai chevalier qu'elle attendait. Mais ces gens devaient refuser l'entrée à quiconque s'avancerait sur un des côtés, car ce ne serait point le vrai prétendant. Quand le temps fixé fut presque entièrement écoulé, l'aîné des trois frères pensa qu'il lui fallait se hâter d'aller trouver la princesse et de se déclarer son sauveur pour obtenir sa main et son royaume avec elle. Le voilà donc parti sur son cheval quand il arriva devant le palais et qu'il vit la splendide route d'or. Il se dit « ce serait dommage de marcher dessus » et il détourna son cheval à droite. Mais lorsqu'il fut devant la porte, les gens de la princesse lui dirent qu'il n'était pas le vrai prétendant et qu'il pouvait s'en aller. Bientôt, le second prince se mit en route et lorsqu'il arriva en face du chemin d'or, où son cheval avait déjà posé le pied, il se dit aussi « ce serait péché, le cheval pourrait l'endommager » et il tourna à gauche. Mais une fois près de la porte, il fut de même arrêté par les gens du palais qui lui dirent qu'il n'était pas le vrai prétendant et pouvait s'en retourner chez lui. Enfin, L'année étant complètement écoulée, le jeune prince voulut sortir de la forêt pour aller chercher sa fiancée et oublier ses chagrins avec elle. Il se dirigea donc vers le palais où il l'avait rencontrée, et tout rempli de sa pensée, il aurait déjà voulu être chez elle et ne regardait pas la route d'or. Son cheval avait pris juste le milieu, et quand il fut devant la porte, on la lui ouvrit toute grande, et la princesse le reçut avec mille démonstrations de joie, déclarant qu'il était son sauveur et le légitime seigneur du royaume. Le mariage fut célébré au milieu de l'allégresse générale, après quoi la princesse raconta au prince que son père l'avait mandaté auprès de lui et l'avait pardonné. Il se rendit alors à la cour du vieux roi et lui apprit tout ce qui s'était passé, comment ses frères l'avaient trompé et comment, néanmoins, il avait gardé le silence. Le roi voulait punir les coupables, mais il s'était embarqué sur mer et avait pris la fuite pour ne plus revenir de leur vie.
Bonne nuit. Bonne nuit.